Bienvenue au Polysécur épisode segment humain. Je sais combien de Benoît.
Salut.
Ça va bien?
Oui.
Ouais, ben c'est ça, j'ai commencé à le nommer comme ça parce que bon, ça prend la place que ça doit prendre finalement, le côté qui est intéressant du volet humain en cyber et non négligeable essentiellement. Pour faire suite à la dernière conversation qu'on a eue, on va aborder aujourd'hui un peu le fait d'établir des liens, comment on fonctionne associé à tous ces éléments-là, puisque même si la plupart des neurodivergents n'ont pas de confort ou même un malaise profond à faire ce genre de choses-là, il demeure qu'on est en minorité. Donc, il faut quand même adapter et aller de l'autre côté. Et justement, parce que ça a des avantages, l'humain est quand même grégaire et on doit établir des liens pour avoir des éléments professionnels notamment ou d'autres éléments essentiels dans la vie de notre communauté.
Oui, c'est ça. Puis c'est pas toujours évident. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres aussi. Encore une fois, il n'y a rien qui est flat. Ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même manière. Il y a des gens qui sont vraiment neurodivergents qui vont faire comme « Regarde, moi, je n'ai pas de problème avec ça. » Mais souvent, on va voir que c'est des gens qui sont un peu plus introvertis pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons. On en a parlé, l'hyper-émotivité, l'hyper-sensibilité va jouer aussi souvent là-dedans, qui va faire en sorte que, par exemple, être dans des groupes, ça va peut-être être, on vient juste en parler, là, en hors d'onde, mais ça va peut-être être plus énergivore, tu sais, d'être, par exemple, d'aller dans une réunion, dans un party, etc. Fait que nécessairement, la manière dont c'est abordé, ça va être un peu différent pour la plupart des gens qui sont en situation de neurodivergence, là. Donc, mon pif, évidemment, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais mon pif me dit que j'imagine que la plupart des gens sont beaucoup plus profil introverti à cause de notamment ces éléments-là où être avec les autres. Autant c'est un réconfort, puis c'est pas qu'on est des sauvages, c'est pas ça. C'est plus que c'est une demande d'énergie. Puis ça va être une explosion de sensations, tu sais, du son, des gens qui te parlent, tu sais, puis là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'environnement qui vont faire en sorte que ça va venir drainer. Et c'est dans le fond, il faut juste comprendre que ça va arriver. Il faut le gérer et ne pas se couper. Puis je pense que c'est un des problèmes qu'on voit avec la pandémie, c'est que ça a exacerbé certains de ces comportements-là de se couper du monde.
Ça l'a légitimé un certain nombre de personnes justement à agir ou à rester isolées dans leur demeure. Moi, je fais partie de ceux qui étaient heureux d'être en confinement. peu de gens l'ont été par ailleurs, là, mais moi, j'ai fait partie de ceux qui sont sortis. Là, en même temps, la partie cachée, c'est que j'ai une famille puis tout ça. Je n'étais pas nécessairement seul à la maison. Donc, je n'étais pas dans un état d'absolue solitude. Sauf que j'étais de ceux qui étaient contents de ne pas avoir à aller ailleurs. Et j'aime beaucoup le bénéfice qu'en est resté après, justement, de cette capacité-là à ne pas être obligé de le faire. Un peu comme tu le mentionnes, cette obligation-là, puis parce que par réflexe, ça coûte de l'énergie. Exactement comme tu as dit, si ça me coûte de l'énergie, je ne suis pas sûr si ça. Puis je fais toujours le premier réflexe, c'est de faire un coût bénéfice énergie. Puis si je ne sens pas que le bénéfice est assez grand, je vais avoir tendance à rester reclus. Le problème, c'est qu'on évalue mal le bénéfice qu'on obtient parce qu'on n'a pas nécessairement un bon calcul. Puis c'est là qu'on a plus tendance, comme tu dis, à rester davantage seul ou ne pas se mêler parce qu'on ne voit pas le bénéfice associé à ça qui par rapport au coût d'énergie qu'on y met.
Ouais, puis tu sais, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont, je vais dire, cachées, qui vont apporter des bénéfices assez forts aux gens sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Tu sais, on se l'aura pas, là, tu sais, à la base, l'humain est un animal grégaire, puis t'sais, autant qu'on peut dire, t'sais, moi j'ai pas besoin des autres, la réalité c'est pas ça, là. C'est que t'sais, tu vas en avoir besoin des autres ne serait-ce que pour ton propre équilibre mental. Puis, tu sais, je suis le premier à être comme ça. Moi, souvent, je vais dire, tu sais, chez nous, avec mon chat en train de lire un livre, ça va m'apporter bien plus de bonheur qu'être avec du monde. Ben, tu sais, oui puis non. Tu sais, des fois, quand t'es, là, tu te rends compte que tu es avec une gang, là, tu fais un peu le party, puis là, tu te rends compte que, ouais, ben, finalement, tu sais, j'ai eu du fun, puis ça m'a apporté de quoi, puis ça peut t'apporter beaucoup plus de choses qui sont pas nécessairement sur le coup auquel tu vas penser. Là. Donc, tu sais, ça l'apporte à l'équilibre personnel, mais ça l'apporte aussi à l'équilibre potentiellement professionnel aussi. Tu sais, les gens qui vont s'entourer et être capables d'avoir les bonnes relations vont généralement aller beaucoup plus loin dans leur carrière aussi. Là. Fait que c'est comme une nécessité. En même temps, c'est un défi. C'est comme une épreuve.
Ouais, c'est ça. Ça vient toujours au premier réflexe. Moi, je le prends plus comme étant une expérience où j'apprends. C'est-à-dire, pas parce que j'ai pas nécessairement de grandes habiletés sociales fondamentales. Donc, j'ai pas d'inné de ce côté-là. C'est de l'appris. Mais pour l'apprendre, il faut s'exposer. Puis, il faut être capable d'accepter d'être moins bon. Puis, ça aussi, c'est difficile parce que, en tout cas, moi, dans mon profil, le fait d'être moins bon mérite beaucoup. J'aime pas ça. Fait que je m'expose pas nécessairement à des situations, dans ce cas-ci social, qui vont me mettre à risque d'être moins dans ma zone de confort. Donc, je recule. Là, tu sais, avec les années, là, je parle comme ça, mais tu sais, je remonte il y a 25, 30 ans de ça, et je me suis imposé de ces époques-là d'aller au-delà de ça, de lutter contre cette pulsion de rester tout seul dans mon sous-sol. Puis là, tu sais, on remonte il y a 30, 35 ans, j'étais un adolescent dans un sous-sol avec un ordinateur qui jouait à des jeux vidéo. Là. C'était beaucoup plus confortable comme situation que de devoir m'exposer, de parler à d'autres humains, d'avoir surtout à l'adolescence, d'avoir l'air fou parce que on n'est pas toujours très habile, même comme adolescent en général, mais comme neurodivergent, en plus, on a une pénalité supplémentaire qui est difficile à vivre. On est hypersensible en général aussi, ce qui fait qu'on vit davantage le stigma du rejet qui dans l'absolu, rationnellement, si je prends pas ma lunette de neurodivergent, c'est normal, ces éléments-là sont des mesures de contrôle social qui nous apprennent comment agir avec les autres. Donc, c'est nécessaire d'y aller, mais ça fait plus mal que la majorité des humains.
Oui, puis tu sais, tu parles justement, on était derrière l'ordinateur, là, mais c'est ça, tu sais. Je pense qu'un des éléments qui a fait en sorte que c'est peut-être encore plus difficile, c'est que l'accès à la technologie, l'accès à cet outil-là qui est particulier, tu sais, est devenu une espèce d'élément doux amer. Fait que, tu sais, d'un côté, c'est comme une espèce de casse-tête pour nous, là. Fait que, tu sais, on est devant ça, puis on s'amuse avec ça, puis effectivement, on va jusqu'à gamer, etc. Mais ça devient aussi un portail pour se créer des relations, entre guillemets, qui peuvent être parfois très bénéfiques, là, on ne se l'aura pas. Mais c'est pas nécessairement la même chose que d'être mis en contact avec des humains dans leur quotidien puis des gens qu'on va voir dans des situations réelles. Là. Donc, c'est comme pas un piège, mais faut l'utiliser de manière intelligente. C'est-à-dire que facile d'être derrière la machine tout le temps, mais à un moment donné, il faut être capable de dire, je vais passer ailleurs.
Absolument. Puis ça, j'ai un exemple. Si je reprends cette période-là de ma vie, c'est la période de IRC. Fait que pour ceux qui se rappellent, c'était quoi ce genre de choses-là? Donc, c'est l'époque de IRC où il y avait des forums de discussion en temps réel avec d'autres personnes. Et il y avait des communautés qui s'étaient créées autour de ça. Et donc, il y avait des get-together qui se créaient justement sur la base de ça. Et c'est là où, essentiellement, en tant qu'humain en développement, j'ai appris l'importance des relations avec les autres, même si je n'avais pas de naturel d'aller dans le vrai monde et d'agir avec eux autres, ben je me suis imposé d'y aller. Fait que j'allais à plusieurs get-together à ce moment-là, des GT qu'on appelait à l'époque, pour justement rencontrer des gens un peu à travers le Québec aussi. Là, j'allais dans plusieurs zones, j'étais organisé dans plusieurs villes, ce qui m'a permis de voir le Québec de façon plus large, puis de rencontrer plein de gens de divers horizons, dans toutes Puis eux autres aussi n'étaient pas nécessairement confortables. On était tous un peu, dans les débuts, un peu créatifs, disons. Mais tout étant dans un contexte comme ça, qui était quand même bienveillant globalement, favorisait ce genre de choses-là. Et de là, j'ai appris beaucoup de choses où je me suis outillé comme humain, ou comme meilleur humain ou meilleure capacité d'interagir avec les autres dans le monde réel.
Ouais. C'est ça, je pense que quand c'est utilisé comme un moyen pour aller plus loin, mais c'est parfait. C'est là qu'on peut on peut être à notre plus fort, là, dans le sens où on arrive puis hop, on va construire des premières relations à travers ça, tu sais, puis ensuite de ça là on va aller, là, c'est l'effort supplémentaire pour aller à l'autre étape, c'est-à-dire rencontrer le monde live puis être avec eux. Et, tu sais, en même temps, je me rappelle, Louis T. A fait un documentaire, parce que Louis T., c'est un humoriste, là, et a été diagnostiqué comme étant autiste Asperger. Et lui, il disait, tu sais, par exemple, dans les parties, tu sais, il prenait de l'alcool pour se désinhiber. Puis là, le problème qui arrivait, puis c'est qu'il va faire du information dump. Puis j'ai tendance à faire ça aussi, donc je comprends. Là, il va essayer de s'immiscer dans une conversation. Puis là, tout d'un coup, il va essayer de parler de choses que lui aime. Puis que, là, il va parler de tout ça. Puis là, c'est sa passion. Fait qu'il va nécessairement parler. Fait que, tu sais, le danger aussi, c'est là, c'est de dire, OK, bon, c'est d'essayer de retirer du plaisir juste pour nous à travers ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est qu'il faut que ça soit donnant-donnant. Donc, on arrive là.
Ouais, faut doser l'intensité. Ouais. Si on le prend à cet exemple-là, c'est faut doser l'intensité. Ouais, moi aussi, j'ai dans une valeur là où si moi, vraiment, j'embarque dans une conversation où j'ai lu là-dessus dans un horizon relatif. C'est sûr que je vais commencer. Ah oui, telle étude de telle affaire, quand les gens voulaient juste être plus surface, moi je commence à plonger. Généralement, c'est pas très populaire, ce genre de choses-là. Les gens ont tendance à s'éloigner davantage.
C'est ça. Puis en même temps, tu sais, c'est comme OK, c'est parce que là, tu as l'impression d'accrocher sur quelque chose. Puis là, tu te dis OK, bon, ben, les gens vont s'intéresser à ça, là, mais ouais, c'est pas toujours là. La meilleure approche, ou du moins, il faut faire attention. Peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui est comme toi, puis là, ça va fitter. Puis, tu sais, ça dépend aussi des intérêts des gens. Mais, tu sais, moi, je sais bien que, par exemple, dans une conférence, tu sais, je suis vraiment pas de ceux qui est capable d'aller parler avec des gens. Tu sais, c'est difficile pour moi. Puis, tu vois, mon ancien patron, lui, c'était une machine à faire ça. Ça m'impressionnait. Il était capable de parler avec tout le monde. Tu sais, j'ai beaucoup appris avec lui dans le sens où, tu sais, je l'ai observé. Tu sais, je le regardais aller, puis il se promenait d'une place à l'autre, capable de parler avec tout le monde, tu sais. J'étais comme, ah, c'est intéressant. Puis un des éléments que je me suis rendu compte, c'est que finalement, tu sais, ce qu'il fait, là, c'est qu'il met la table pour que les gens parlent d'eux. C'est très, dans le fond, c'est ça, là. C'est que, tu sais, comment tu veux rentrer en contact avec les autres si tu t'intéresses pas aux autres? T'sais, c'est ça, là. Fait que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on s'intéresse à toutes sortes d'affaires qui sont très dans notre univers mental qu'on s'est construit. Mais là, on arrive dans un aspect social. Puis ce qu'on veut faire, c'est parler de cet univers mental-là qu'on s'est construit. Mais au fond, tu es là pour parler avec les autres, puis comprendre les autres, puis discuter avec eux, puis les connaître. Oh. Fait que
oui, ben c'est ça, on oublie, parce que c'est comme mettre la table ou c'est comme une espèce de rituel d'entrée, parce qu'on veut tout de suite embarquer sur notre sujet de passion dans le contenu. Quand dans le réel, il y a une petite danse où il faut mettre la table avant, donc faut ouvrir la conversation, il faut aller plus doucement dans ce qui s'ensuit, effectivement, parce qu'on est... Ouais, je sais aussi, là, je suis comme ça, puis ça a pris des années d'apprentissage à ralentir, puis à aller changer la façon que j'approche les gens. Au lieu de tomber directement dans le sujet de débat, puis de commencer à aller cruncher, il faut aller lentement, puis voir si l'interlocuteur aussi est intéressé à débattre. Puis en général, si la réponse est non...
Oui, c'est comme OK, bon, ben, je vais passer à d'autres choses.
Oui, puis même, c'est parce que, tu sais, ça peut être vexant parce que, tu sais, justement, comme tu disais, ton univers mental, tout ce que t'as, puis tu sais, on attache beaucoup d'importance à cet esprit-là parce que ça nous occupe. Ça occupe le plus clair de notre temps, essentiellement. Mm-hmm. Donc, on y porte beaucoup d'importance, puis par erreur, on pense que les autres ont le même genre de construction que ça. Ou sont intéressés à partager la leur, parce que même s'ils en ont une, ils ne sont peut-être pas nécessairement intéressés à la partager également. Donc, il y a tout cet élément-là qu'il faut justement saisir et aller doucement, puis de plus, ne pas imposer qui on est finalement, puis de laisser l'autre venir aussi, venir embarquer avec nous, là, venir danser avec nous.
Ouais, puis quand on arrive avec des situations où là, justement, tu essaies d'entrer en relation avec l'autre, tu sais, il y a toujours l'espèce de OK, de sur-questionnement sur soi. On est comme en train de regarder l'autre, puis là, on dit, je suis correct, ça a-tu d'allure, je suis en train de faire quelque chose qui n'a pas d'allure, je la regarde trop, je suis en train de pas, j'ai-tu l'air weird,
Ah non, mais ça, c'est l'asile, parce que je suis de ceux-là, c'est-à-dire que je regarde, j'étais en lecture constante de mon interlocuteur. Fait que s'il commence à se frotter le nez, je dis, oh non, il y a quelque chose qui va pas bien, ou là, j'ai dit quelque chose de pas bien, puis là, là, j'embarque dans une loupe, puis là, ensuite, je me perds, puis là, je décroche du moment présent. Mais justement, je suis trop oups, là, j'ai peut-être fait quelque chose de pas bien, puis là, d'observation démesurée, puis de toute façon, qui sert à rien que ce que l'expérience m'a rapporté aussi. Mais quand même, c'est cette espèce de boucle de feedback qui s'emballe dans ma tête. Celle-là, c'est fou, là. Puis là, j'ai...
Ouais, moi, j'ai tendance à faire des zone out. Puis c'est pas parce que je m'intéresse pas à personne ou ce qu'elle vient de me dire. En fait, c'est l'inverse. C'est que la personne vient de me dire quelque chose d'extrêmement intéressant. Puis là, je tombe dans mes pensées. Puis là, je suis comme, OK, je commence à spinner là-dessus. Puis là, fait que là, tu sais, ça va peut-être continuer à parler, là. La personne va peut-être continuer à parler, puis là, je suis comme, oh shit, OK, je l'ai échappé, celle-là. Là, parce que là, il y a eu une idée, un élément, puis là, mon cerveau, il a fait, hey, ça, c'est intéressant, puis là, il est parti jouer tout seul. Là, mon corps est devenu comme une espèce de zombie qui est là, puis qui est puis qui attend jusqu'à...
Oh oui, celui-là est excellent, puis c'est Alex Major qui avait utilisé, il y a comme le palais mental, c'est-à-dire que puis ils le remarquaient, justement, quand les gens vont prendre leurs yeux, vont regarder vers le haut, vont comme chercher. Ouais. C'est justement dans ces genres de contexte, on est en train de chercher un lien avec ce qu'ils sont en train de se dire. Et justement, puis là, on n'écoute plus parce qu'on cherche dans notre tête au lieu d'être présent avec la personne qui est en train de parler. Au lieu de, tu sais, l'autre exemple, à part le zombie, ben, c'est justement, tu es en train de connecter les morceaux dans ta tête, puis ben, là, tu es un peu moins présent. Puis ça, les gens s'en rendent compte.
Ouais, c'est ça.
Fait que là, on brise le lien. Qu'on ouais. essaie d'établir avec l'autre. Là.
Parce que là, les gens font comme, ils ne m'écoutent pas. Là. Ils sont zéro intéressés. Ce qu'il fait là, il est comique. Là, fait que, mais t'es, en fait, c'est tout l'inverse. C'est que t'es genre, oh shit, OK, ça c'est tellement intéressant là, que ton cerveau, il part avec sa petite brouette puis il s'en va amener ça dans un endroit exceptionnel. Là, mais c'est ça. Les gens, la plupart des gens ne fonctionnent pas comme ça. Donc, c'est difficile pour eux de comprendre c'est quoi qui se passe, quoi qui est en train de se passer. Là. Donc,
ouais, c'est peu habituel, mais oui, effectivement, ce genre, parce que c'est constamment tout ce que j'entends et comme tu le mentionnes, est reconnecté avec des éléments que j'ai de connaissances, d'expériences, choses comme ça, justement, pour être capable de le placer dans ma conception de comment je vois les choses et pour pouvoir continuer la conversation, peut-être d'une façon un peu trop intense d'ailleurs, ce qui amène dans des zones qui, des fois, là, justement, on vient, il faut juste se redescendre, même si ça peut paraître vexant des fois de devoir redescendre ou descendre l'intensité ou descendre la vitesse, ben, c'est ça que c'est ça qui aide à établir les liens et qui aide à aller plus loin et justement à établir les conversations peut-être plus intenses ou lesquelles on est plus à la recherche.
Non, puis ce que moi j'ai tendance à faire aussi, où là, il a fallu que je me surveille un peu plus, c'est quand je vois quelqu'un qui m'intéresse, là je commence à y poser des questions random. Hey, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Fait que tu sais, c'est pas nécessairement toujours la bienvenue. T'sais, encore une fois, c'est. Est-ce que tu as pensé à comment l'autre personne se sent? Puis qu'est-ce qu'elle a envie de faire et d'être en ce moment? Plutôt que juste être, tu sais, Mais tu sais, moi, j'ai le goût d'être en contact avec l'esprit de cette personne-là qui m'intéresse, que je trouve que, tu sais, waouh, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais là, tu commences à y poser, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Là, t'es comme, OK, tu sais, c'est pas toujours. Il y en a qui sont bien réceptifs, qui sont comme, ah, c'est intéressant, c'est cool. Mais c'est pas toujours le cas. Fait que là, des fois, tu peux être comme, ouais.
C'est peu souvent le cas que les gens sont, en tout cas, à premier abord, vont être capables d'ouvrir aussi large et de façon aussi étendue dans une première conversation sur des questions random. Et justement, puis encore là, même des accroches comme genre parler de l'actualité, ben, le problème que j'ai, si je commence à ça, c'est sûr, je vais faire un crush sur la situation géopolitique de d'autres choses. Mmh. Là, je vais faire un lien avec l'espace mondial de telle affaire. L'autre est comme. Lui, l'autre n'a pas passé dans. Il n'est pas un zombie parce qu'il aurait fait des liens. Lui est un zombie parce qu'il ne comprend plus où je suis rendu dans ma tête. Et je l'ai perdu en chemin, malheureusement, parce que ça n'a pas de lien pour les autres, ce qui est les liens que j'ai dans ma propre tête.
Ouais. Puis, encore une fois, souvent, le défaut de penser que les autres pensent comme nous autres, ça revient facilement à ça. Il faut tout le temps que tu te surveilles toi-même et tu te dis, OK, mais garde, c'est. Je suis une petite bébite bizarre, puis c'est bien correct, mais il faut juste que, tu sais, je pense pas que je suis dans un univers où il y a des petites bébites bizarres tout le temps. Tu vas rencontrer des petites bébites bizarres, puis c'est le fun, mais tu sais, ça se peut que tu fasses affaire à des gens qui sont pas du tout dans ton univers, puis c'est bien correct. Là,
c'est bien correct, puisque je pense que dans le précédent ou l'autre avant ou les deux, on avait mentionné justement, c'est pas de l'élitisme, c'est de cette attitude-là, c'est vraiment juste parce qu'on est comme, les fils sont pas branchés de la même façon, on n'interprète pas les choses de la même façon, dans le même ordre, puis des fois c'est un peu difficile de réussir à faire le lien, puis c'est un effort, puis il faut qu'on le fasse d'ailleurs, cet effort-là, de comprendre l'autre, d'aller vers l'autre, puis même si ça demande un effort a priori, c'est payant à court et moyen, au moins à moyen terme, puis à long terme, c'est très payant parce qu'on a des amis, on a un réseau de support. Puis, au niveau professionnel, l'avancement se fait essentiellement sur ce genre de choses-là. Même, tu sais, puis les gens, ils disent, ouais, je vais faire télétravail 100%, ils disent, oui, mais ta probabilité de promotion est diminuée parce qu'on est des humains, on a besoin de ces relations-là avec les autres. Si on ne les a pas, c'est plate, mais on est pénalisé. Puis de façon très sérieuse. C'est pour ça qu'il ne faut pas justement utiliser l'écran à se cacher au niveau professionnel et d'aller vers l'autre, d'aller doucement vers l'autre. c'est plus top. D'aller doucement vers l'autre. Et de comme ça, moi, de façon générale, la façon que j'ai, c'est que je me place en mode écoute, strictement. Un peu comme tu mentionnais, je fais juste écouter, je pose des questions. C'est la façon que j'ai réussi à tempérer mon intensité. Puis des fois, j'ai un petit reflux de vouloir ressentir. Je fais non, pas tout de suite. Faut laisser le temps aux choses de croître et de grandir pour justement permettre d'aller peut-être un peu plus loin aussi. Une fois que notre interlocuteur sait quel genre de personne on est, là, ça devient plus facile pour lui aussi de comprendre comme est intense. C'est pas agressif ou c'est pas un objectif comme ça qui va davantage. Puis un peu d'évangélisation aussi à faire. On en parlait d'évangélisation dans notre domaine. Mm-hmm. Mais en termes de personnalité aussi, il faut évangéliser vers l'autre. Dire, OK, j'ai des petits morceaux bizarres.
Oui, c'est ça. T'sais, puis l'expliquer au fur et à mesure, t'sais, évidemment. T'sais, moi, je vois l'approche que j'ai maintenant là, quand je rencontre des gens, c'est que t'sais, je vois ça un peu comme des petits sujets de recherche. Là. Évidemment, ça peut avoir l'air creepy comme ça. Là, ça a l'air du gars qui est dans le laboratoire puis qui prend son monde. Mais c'est pas ça. Là. Dans le fond, c'est plus comme, OK, je rencontre quelqu'un, c'est un élément qui est immensément complexe, qui se trouve devant moi, qui a des volontés, des forces, des faiblesses, des émotions. Et puis, il faut que j'essaie d'en savoir le plus possible sur cette petit microcosme d'univers qui est devant moi, puis qui s'expose au final, parce que pour l'autre personne aussi, là, c'est pas évident. Là, on a de l'air à dire que c'est nous autres qui le toffe, mais c'est pas. Tu sais, on le sait, là, juste par exemple, dans les peurs les plus fondamentales que la vaste majorité des gens ont, c'est d'aller s'exposer devant un public puis de faire un speech. Fait que c'est pas que de dire que c'est facile pour les autres non plus. Tout ça est difficile. C'est juste que probablement que le neurodivergent moyen a peut-être un peu plus de défis que les autres. Parce que ben notre univers se trouve entre nos deux oreilles principalement. Tandis que la plupart des gens, ben l'univers est à la fois entre les deux oreilles, mais à la fois à l'extérieur, puis tout ce qui se trouve autour. Ce qui ne veut pas dire qu'on est non plus complètement autarcique, là, mais on...
Non, absolument pas. Mais en même temps, il faut accepter. Puis oui, effectivement, la plupart des gens vivent un certain degré d'angoisse. On a une strate particulière qui est la nôtre. Et on est en général assez maladroit aussi socialement. Puis moi, l'étant en particulier, mais puis j'en connais d'autres aussi. Puis tu vois, maintenant que j'ai un niveau de compréhension de qui je suis de plus grande, je suis capable de voir dans l'autre ceux qui sont ont ce niveau de ce type de maladresse-là. Puis, être capable d'être aussi bienveillant, autant qu'il faut être bienveillant avec soi-même quand on est maladroit. Il faut être aussi bienveillant avec les autres et puis les aider à les aider parce que moi, j'ai développé un certain nombre d'outils avec le temps et de partager avec les autres, mes bébites comme moi, les aider justement à cheminer. Mais en même temps, d'être capable de d'autodérision. Puis ça, pour le neurogène, c'est pas nécessairement facile. L'autodérision, des fois, c'est tough. Mais quand on est maladroit puis dans un contexte social, il y a pas rien de plus facile, de plus aidant pour atténuer une maladresse, une chose qu'on n'aurait pas dû dire, puis qu'on a dit n'importe quoi. Puis j'en connais beaucoup qui disent des affaires drôles, même moi le premier. Et de justement d'être capable de leur prendre, c'est ben OK, j'ai, puis là, d'en rire un peu, puis d'en faire passer à autre chose pour aider le contact avec autrui, pour pas qu'il ne voit que l'être maladroit et awkward, puis qu'il est comme fâché parce qu'il est comme ça aussi. Là.
Ouais, puis moi, je suis un chanceux, là, j'aime ça rire de moi. Fait que c'est sûr que ça simplifie bien les affaires. T'sais, j'aime rire en général, fait que des jokes, je suis prêt à aller loin pour en faire. Puis à l'inverse, t'sais, j'aime ça quand les gens me brassent un peu. T'sais, moi, j'aime les gens baveux un peu parce qu'ils me font rire. Puis t'sais, rire de moi, ça me dérange pas. T'sais. Fait que, d'ailleurs, ceux qui... C'est les amis proches que j'ai, on est tous un peu genre on se pique, puis ça fait partie de la dynamique qu'il y a là, tu sais, fait que ça, tu sais, faire attention à son amour propre là, tu sais, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on rit de soi qu'on est en train de se diminuer, tu sais, on est juste pas parfait. Il n'y a pas personne qui est parfait là, tu sais, fait que aussi bien à rire parce que sinon on va être malheureux toute notre vie là, tu sais.
Ouais, puis tu amènes un point intéressant parce que entre neurodivergents, on se pique. J'ai ma plus jeune qui est comme ça, fait qu'elle est très dans cette attitude-là de piquer. Plus jeune, je l'étais aussi, je le faisais de façon non discriminée. Et il faut faire attention parce que les neurotypiques, généralement, le tolèrent moins bien ce genre de taquinerie-là, qui est très typique d'un type de personnalité. Puis c'est pas dégradant. C'est juste que c'est perçu un peu plus agressif que ce que les gens vont se taquiner normalement entre eux autres. Quand les neurodivergents taquinent, ils taquinent sur des choses beaucoup plus, je dirais, sensibles, mais je pourrais pas qualifier parce que je sais pas comment c'est reçu. Je sais juste que c'est mal reçu. Justement, faire attention, c'est une chose que j'ai, avec les années, diminué, là, justement, parce que j'ai appris un peu brutalement que j'étais un peu trop piquant pour certaines personnes. Qui, elle, n'était pas apte à gérer ce piquant-là, qui n'était pas dans cet univers-là. Fait que j'étais juste. Bref, j'étais juste
faut choisir son
à
public. C'est ça, là. Faut choisir le public. Faut être. Tu sais, les bonnes interventions au bon moment, là, c'est ça, là. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui tu peux le faire, d'autres avec qui tu peux moins le faire, d'autres que c'est pas du tout, là. C'est d'être capable de lire ces situations-là, là. Lire l'environnement, lire. Tu sais, read the room, là, souvent, là, c'est ça, là. Tu sais, ton intervention était-tu à la bonne place au bon moment, là? Encore une fois, c'est pas toujours évident de faire la lecture de la salle. Donc,
ouais, puis ça revient à ce que je disais un peu plus tôt, c'est si on s'expose pas, on n'a pas d'occasion d'apprendre à la lire, la salle. Donc, si ça devient un problème, parce que si on n'est pas capable, si on s'expose pas, on n'est pas capable de le faire, sachant qu'on aime beaucoup apprendre généralement de choses diverses et farfelues, ben, justement, on va apprendre de ces choses-là, ces contacts-là. Fait qu'avec le temps, autant Quand j'étais jeune, je lisais très mal la pièce. Là, avec les années, j'ai appris à lire davantage la pièce, justement, pour être mieux capable de calibrer ce que je fais un peu partout. Puis même à certains égards, je lance des ballons d'essai pour vérifier, pour voir s'il y a si les gens attrapent ou pas, parce que des fois, je suis incapable de lire parce que c'est comme ça. J'envoie juste des petites choses inoffensives, juste pour voir si les gens vont être capables de capter ou être capables d'agir sur un certain nombre de choses dans lesquelles j'agis, justement, pour m'aider à lire la pièce, pour être capable d'éviter de me mettre les pieds dans les plats. Là. C'est dans lequel je suis assez bon, d'ailleurs, de mettre les pieds dans les plats.
Oui, oui, c'est ça. Puis, c'est comme moi, je sais bien que j'ai un petit peu d'autisme et sur le donc je suis aussi dans la douance et tu sais, des fois j'ai un peu moins de capacité de lecture des émotions, mais là la douance vient jouer parce que là j'ai de l'hypersensibilité, fait que je comprends pas ce qui se passe, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe pas correctement, fait que ça c'est comme ça que ça fonctionne, fait que là c'est mon trigger, c'est comme ok, là faut que tu regarde ce qui se passe comme faut là, Ben, parce que là il y a quoi qui se passe, ta sensibilité te parle, te dit hey, là il y a de quoi qui arrive, puis là décode là. Là, t'es comme, OK, là, faut que je vais prendre un peu plus de temps, je vais peut-être me former à la trappe le temps que je comprenne ce qui se passe. Là. Des fois, ça évite. C'est comme ça mon mécanisme de détection. Là. Je sais que il faut que je sois prudent et que je prenne peut-être un peu plus de temps pour lire la situation, pour comprendre, puis m'assurer de ne pas me mettre le pied dans les plats. Là. Puis comme tu dis, ben moi aussi, je me suis mis les pieds dans les plats. Puis, comme tu dis, tout ça, si tu le fais pas, tu l'apprendras jamais. Il faut faire cet effort-là.
Ouais, puis c'est ça la difficulté d'être un hypersensible. C'est qu'il faut t'accepter de faire des erreurs, donc de trigger ta sensibilité, ton hypersensibilité pour accepter de pouvoir apprendre. Puis cette boucle-là est très difficile. Puis je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de la faire parce que c'est quand même lourd à faire. Moi, je l'ai faite parce que j'ai une personnalité bizarre. J'ai un segment spécifique. Puis tu sais, je suis un neurodivant. On est tous différents dans ce sens-là. Fait que moi, j'ai, de mon expérience de vie, je l'ai faite. Ça a fait mal beaucoup. Ça, je m'en cache pas. Puis j'ai une couple de tapes sur le nez qui ont été même à certains égards où j'ai manqué de sensibilité à des moments où j'en aurais dû en avoir un peu plus. Puis ça m'a coûté cher en termes personnels et en termes professionnels également. Donc, de ces erreurs-là, j'ai appris cependant. Je fais plus attention maintenant. Puis, entre autres, comme les ballons d'essai aussi. Puis je suis beaucoup plus en recul. C'est-à-dire, j'interviens pas tant que j'ai pas une compréhension de comment mon entourage se situe dans un contexte nouveau. Puis aussi, ça me rend plus difficile dans un contexte social parce que je suis toujours un pas en arrière parce que je veux faire attention.
Mm-hmm.
Mais en même temps, quand on veut réseauter, bien, c'est difficile d'être toujours un pas en arrière parce que les gens ne viennent pas toujours vers toi parce que tu as l'air justement un peu en retrait. Puis à part d'avoir un homme charitable qui vient te prendre en charge puis vient t'aider, on va rester en retrait, puis on bénéficiera pas des séances de réseautage, on bénéficiera pas de vos professionnels, même personnels dans certains égards.
Hein. Ça me fait penser que quand tu parlais des tapes sur le nez puis tout ça, moi aussi j'en ai eu, je sais qu'il y a des gens qui ne font plus partie de mon entourage parce que j'ai merdé là. Puis quand j'ai eu mes premières confirmations, les discussions avec mon neuropsy, tu sais, une des premières choses que j'ai faites, c'est j'ai pris conscience de bien des affaires. Puis là, j'ai écrit aux gens que je connaissais, hey, by the way, il vient de se passer ça dans ma vie. Désolé si j'ai été, par exemple, maladroit ou si j'ai fait des choses qui, tu sais, qui te paraissent peut-être un peu awkward. Tu sais, c'était pas volontaire de ma part. Sache que je travaille là-dessus. Tu sais, fait que ça, c'était un gros exercice tu sais, qui d'abnégation puis de dire, OK, là, shit, c'est moi le problème. Là, tu sais. fait que ça a été... ça a été une période assez particulière, là, on va dire ça comme ça. Puis, en même temps, ça a consolidé plein de choses. Les gens, maintenant, non seulement ils savent, mais ils vont probablement me donner des signaux aussi, disant, là, hey Ben, fais attention, tu sais, parce que je leur ai demandé, tu sais, en disant, regarde, là, ça se peut que, vous n'êtes pas à me flaguer cette fois qui ne marche pas, là, tu sais, parce que je suis en apprentissage. Je suis en mode, j'apprends de cette façon de fonctionner là, puis de l'impact que ça a avec les autres. Là, fait que ça fait partie du travail qui n'est pas fini, puis qui va probablement durer jusqu'à temps que je sois sur mon lit de mort.
Fait que, inévitablement, c'est un travail d'une vie.
Ouais. Surtout que, tu sais, souvent, je lisais un truc, là, puis ça disait qu'un des éléments que souvent, dans beaucoup de cas de neurodivergence, ce qui fait en sorte que il y a comme des traits qui sont différents, mais un des aspects, c'est cette espèce de regard enfantin sur le monde, tu sais, une espèce de. Une âme d'enfant, là, qui est encore très présente, tu sais. Puis je suspecte, là, évidemment, c'est le pif qui parle, là, c'est pas rien de fondé là, scientifiquement, mais tu sais, le fait que justement on est souvent dans notre cœur d'enfant, ben fait en sorte qu'on agit parfois un peu comme des enfants, tu sais, c'est-à-dire qu'on n'a pas toute l'émotivité ou la maturité émotive d'un adulte conformément construit. Là. Fait qu'on fait en sorte qu'on fait des erreurs qui sont parfois un peu particulières pour les autres, là, qui vont peut-être faire sourciller. Là, même, là. Fait que j'ai l'impression que souvent ça se situe là. Puis en même temps, je me revois jeune, je me revois enfant. T'sais, je socialisais pas tant que ça avec les enfants. T'sais, si tu me donnais le choix entre garde, Ben, là, des livres ou tu vas aller jouer au ballon, moi, c'était comme, OK, je vais tomber dans les livres, puis ça va être ça. Là. Fait que nécessairement, tu coupes sur une partie de la socialisation que tu aurais eu normalement enfant. Là. Fait que c'est à un moment donné, c'est exponentiel. Là. Tu mets ça tout le temps, ben, tu te ramasses à 35, 40 ans, puis. Ben, ça a l'effet que ça a eu, là.
Ouais, c'est ça, ces éléments-là. Puis c'est ça, on s'est coupé de l'apprentissage étant jeune, justement, parce qu'on n'était peut-être pas en mesure de pleinement mesurer l'importance d'eux. Puis c'était plus confortable d'être dans des livres, c'était plus confortable d'être dans un autre, dans les jeux vidéo ou d'être dans des environnements comme ça. Donc, on s'est un peu ou beaucoup coupé de ces environnements-là, de cet apprentissage-là. Puis effectivement, je peux comprendre, on n'a pas l'entière maturité émotive qu'on pourrait s'attendre d'un adulte bien formé.
Puis, ben, dans le milieu du travail, comme on disait tantôt, ça a un effet assez important à prendre en considération. C'est-à-dire que quand on est gestionnaire puis qu'on sait qu'on doit gérer des gens qui sont en situation de neurodivergence, il faut donc faire attention. T'sais. Est-ce que tu vas demander à ces gens-là d'être les porte-parole du bureau ou de ta compagnie? Ben, peut-être que ça peut marcher, peut-être moins. T'sais. Fait que, des fois, c'est peut-être mieux de le mettre en team tag avec quelqu'un qui est un peu plus avenant, qui est capable de qui est extroverti puis qui va être capable de bien fonctionner avec les gens plutôt que de l'envoyer tout seul au front puis de ne pas lui donner ses conditions gagnantes. Là. Fait que ça, c'est un élément aussi à prendre en considération.
T'sais. Oui, ben c'est très important comme gestionnaire de ne pas brûler ces personnes qui sont justement comme ça, neurodivergents. Puis justement, je trouve ça intéressant d'abord le volet d'entreprise de gestion. Comme tu as été gestionnaire, j'imagine que tu as dû accompagner des gens qui eux-mêmes étaient neurodivergents et peut-être pas dans un état de maturité neurodivergente très élevé. Y a-tu des éléments là-dedans que tu pourrais partager sur comment tu les as aidés à cheminer pour le peu que tu as pu les aider à cheminer?
Ouais, ben, c'est justement ça, tu sais, dans les questions de, tu sais, veux pas, l'aspect social est hyper important au travail, tu sais. Souvent, tu sais, ben, j'en revenais beaucoup, tu sais, j'en revenais. T'as-tu pensé à l'effet que ça a eu quand t'as dit telle chose? Ou t'as-tu réfléchi à quand t'as agi de telle manière, comment les autres se sont sentis, puis ça va être quoi l'impact sur tes relations à venir? Souvent, ça vient pas de, encore une fois, tu sais, je pense pas que les gens sont fondamentalement mauvais. Là. Moi, je suis plus l'optimiste, là. Fait que, tu sais, c'est c'est des réflexes, c'est des façons de fonctionner que les gens ont. Puis bon, à un moment donné, ils se questionnent pas tant que ça. Surtout avec les vies qu'on a au quotidien, tu sais, c'est va vite tout le temps. C'est bien difficile de demander à quelqu'un de, tu sais, de dire, t'as-tu pris le temps de penser? Mais dans les one-on-one, notamment, c'est à ça que ça sert. Hein, tu sais, as-tu pris le temps de penser à l'effet que ça pourrait avoir sur les autres, sur tes relations avec les autres, sur ton avenir avec les autres? Là, oups, OK. Souvent, ça venait chicoter un peu, puis ça venait faire en sorte que, ouf, OK, ouais. Des fois, là, ça met du malaise, mais ce malaise-là, faut le faire émerger. Il faut le faire sortir, puis percer l'abcès. Puis, tu sais, dire, OK, regarde, le travail, c'est un environnement social. On se leurra pas, là, tu sais. Et ça doit être un environnement qui est sain pour tout le monde. C'est pas évident. On est tout le temps dans des situations où il y a des conflits d'ego, il y a des conflits politiques, il y a toutes sortes de choses, mais c'est ce qu'on est capable de contrôler. On va essayer de le contrôler le plus possible. Puis le premier élément qu'on doit contrôler en tant qu'individu, c'est qu'est-ce que je dis puis comment je le dis. T'sais. Fait que, encore, moi, je suis de ceux qui disent que tout se dit dans la vie, mais c'est une façon de le faire. Puis avec un moment correct. C'est-à-dire que demander à l'autre est-ce que c'est un bon moment pour te parler. Oui, non, déjà en partant, ça te donne une bonne idée. Là, c'est un des trucs que j'ai développé avec justement ma gestion, c'est d'arriver quand je veux parler à quelqu'un, c'est est-ce que c'est un bon moment? Puis si la personne me dit non, ben OK. Parfait, mais on se prendra du temps quand tu seras dans un meilleur moment, fais-moi signe. Plutôt que d'arriver, hey, en passant, est-ce que déjà là, c'est comme tu rentres dans la bulle de personne, tu prends en aucune considération si la personne est prête à te recevoir. Puis ça fait en sorte que ben tu peux regretter éventuellement là, les actions, les choses que tu vas avoir.
Ouais, c'est le respect de la bulle est très important. Justement, quand on dit lire la pièce, c'est un peu ça aussi, c'est d'être capable de savoir, ou même l'intensité dans laquelle on parlait plus au début, l'intensité de la conversation, c'est de respecter la frontière de l'autre. Et c'est pas toujours facile parce que plusieurs types de neurodivergents n'ont pas une lecture très bonne de la frontière de l'autre, donc ils vont rentrer dans les frontières des autres sans demander. Puis en même temps, on peut se faire rentrer dans notre propre frontière. Là. Puis c'est ça aussi le neurodivergent qu'on. C'est un peu, en tout cas, à mon sens, une compréhension asymétrique de la notion de frontière. Et justement, l'entrée dans ta frontière, elle peut être une personne beaucoup plus agressante qu'elle devrait normalement.
Mm-hmm.
Ça aussi, il faut tempérer, puis être capable de le verbaliser, dire oh là, je suis pas prêt. Puis là, tu parlais comme gestionnaire de toujours poser la question. Puis, en général, je fais ce genre de choses-là avec quiconque. Je pose toujours s'ils sont disposés à peu importe quoi pour aller justement plus loin. Parce que sinon, si les gens ne sont pas disposés, ben c'est taper la tête sur le mur. Puis peu importe la nature de la personne avec qui on est en face. Mais en même temps, d'accepter qu'une personne peut venir agresser notre frontière qui est plus sensible. Et de juste d'être capable de verbaliser, hey, prends une pause, je suis pas prêt. Oh là. Puis ça aide beaucoup dans la conversation sociale, justement, quand il y a un autre neurodivergent excité qui arrive pour ta frontière, tu dis, hey, frontière.
Et puis en réunion, moi, je vais essayer d'avoir eu des réunions extrêmement musclées, tu sais. Puis des fois c'est bon, il faut juste contrôler que ça déborde pas, mais en même temps un des aspects que moi je travaillais très fort, c'est d'aller chercher tout le monde, c'est-à-dire hein, toi ça fait un petit bout que t'as pas parlé, y a-tu quelque chose qui te chicote, y a-tu quelque chose que tu veux dire que trotte dans ta tête, parce que moi je me souviens que c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'à un moment donné quelqu'un fasse, parce que il y a des affaires que je veux dire, mais tu sais, je suis trop gêné, puis je veux pas empiéter sur les autres, puis blablabla. T'sais. Fait que des fois, il faut faire l'effort, toi, en tant qu'animateur dans la réunion, qui si t'es gestionnaire, de dire, regarde, Lui, là, il est aussi important que l'autre avec sa grand gueule qui parle depuis le début de la réunion. Puis son point de vue, il est aussi important, voire plus, parce que souvent, quelqu'un qui dit rien, c'est parce qu'il en sait beaucoup. Là. Fait que des fois, il faut que tu ailles le chercher. Là. Fait que c'est d'être sensible à ça aussi dans la gestion, de dire OK. Puis si ça marche pas dans le cadre d'une réunion, ben ça se peut que ça marche pas du tout. Là, il y a des gens qui se sentent très, très, très mal à l'aise à prendre la parole l'un les autres. C'est de dire, OK, mais là, moi, en tant que gestionnaire, il faut que je fasse l'effort de dire, OK, je vais aller vérifier après. Je vais retourner avec cet individu-là, peut-être en one-on-one ou dans des contextes où ça va être moins formel pour aller piquer vers du nez puis s'assurer que j'ai son input parce que sinon, au final, tu vas juste prendre des décisions puis jamais s'en prendre son input puis tu vas. C'est là que tu vas peut-être te rentrer dans le mur aussi, tu sais, c'est ça, là. Moi, c'est une des affaires qu'en tant que gestionnaire, j'essaye le plus possible, c'est de m'éviter les yes-men parce que je me dis, tu sais, si tu as du monde qui dit oui, oui, oui à tout, c'est là que tu te mets dans des situations, c'est hyper dangereux. Fait que j'aime mieux avoir quelqu'un qui me dit, man, t'es en train de te tromper. Là.
Oui, absolument. Puis avoir un débat ouvert avec ça. J'ai déjà eu une gestionnaire avec qui j'avais cette relation-là. Puis c'est particulier. Puis dans le fond, c'était il y avait une forme de chance de ce contexte-là où j'avais une gestionnaire qui était disposée, qui était probablement neurodivergente elle-même, et moi-même, puis à porte close, on avait ce genre de discussion-là musclée, très musclée d'ailleurs, et je pense que la plupart des humains ne seraient pas capables de tolérer ce genre de conversation-là. Cependant, il émergeait un des éléments très importants qui était très utile à son poste de gestion, à sa position dans l'organisation à ce moment-là. Puis ça l'outillait correctement, ça. Mais il y avait une discussion ouverte, sans tabou, si on veut, sur le on parle juste de travail ici, là, sans tabou, là, dans lequel il n'y avait pas de gêne de dire que le plan n'était pas bon. Puis de l'autre côté, ici, dans un contexte comme ça, parce que je sais que certains neurodivergents vont être tendance comme ça, vont garder un grudge, quand leur idée n'est pas acceptée, ils vont être fâchés un peu de ça. D'accepter aussi que même si l'idée est exprimée, même si c'est la meilleure, d'un point de vue gestion, elle sera peut-être pas prise. Et une fois que la décision de gestion est prise, faut lâcher prise, puis faut abandonner notre idée pour l'idée de la gestion aussi. Là.
Ouais, puis dans cette phase d'acceptation-là aussi, c'est de dire que regarde, c'est pas souvent c'est pas parce que l'idée est mauvaise. C'est juste parce qu'elle n'est pas adéquatement communiquée ou pas comprise. Dans la communication, là, tout peut faire en sorte que le message ne passe pas. Là, fait que, c'est peut-être pas le bon timing. Encore une fois, on retourne à la raison, la personne était celle dans les bonnes dispositions pour la recevoir, cette idée-là. Tu ne sais pas non plus c'est quoi les forces que la personne a sur elle qui font en sorte que, regarde, ça marchera. Je ne peux pas m'en aller là. T'sais, même si c'est la vraie décision qu'il faudrait prendre, je ne peux pas m'en aller là pour toutes sortes de raisons qui, toi, t'échappent peut-être. Là, puis là, on rentre dans la politique organisationnelle qui est souvent une espèce d'élément qui n'est pas toujours le fun, là, on s'entend, là, mais ça existe, puis il faut composer avec ça. Moi, un des éléments qui m'a le plus frappé, c'est vraiment dans mon ancienne carrière dans les services de renseignement. J'avais donné un rapport à mon directeur. Le directeur me dit c'était un excellent rapport. C'était une bombe, là, ou à peu près. T'sais. Là, j'ai dit OK, ben, quand est-ce que tu vas le diffuser? Je ne le diffuse pas. Je le garde à mon niveau. Puis, tu sais, j'ai pas posé de questions, mais je me suis rendu compte que, ouais, c'est sûr qu'il y a des éléments là-dedans qui. Il y a des raisons. Il fait pas ça parce que ça y tente nécessairement, là. Il y a de quoi, là, tu sais. Les gens ont tous un rationnel. Ce rationnel-là, il est basé sur quoi? Ben là, tu sais, c'est ça que c'est pas toujours évident. Fait que là, il y avait des raisons. Puis, ça faisait vraiment plein de sens. T'sais. C'est juste que moi, je les connaissais pas. C'est sûr que c'est frustrant. Tu dis là, bon, danse, tu sais, je viens de faire quelque chose, puis je sais que j'ai raison, puis je sais que, mais, socialement, il y a de quoi qui marche pas. Là.
Oui, absolument. Puis il faut être capable de suivre, par exemple, de toute façon, il faut appuyer. Il faut être un joueur d'équipe. Ça aussi, c'est l'élément de joueur d'équipe et pas nécessairement bien maîtrisé par les neurodivergents en général. On a tendance à être des cavaliers seuls. Fait qu'on a tendance à vouloir, nous, avoir la rondelle tout le temps. Puis c'est nous qui fait les... Quand dans la réalité, on est dans une équipe, on fait partie d'un ensemble. Et c'est pas juste à cause de nous que les choses fonctionnent bien, mais c'est un ensemble de choses. Et justement, d'être capable de, même si c'est pas nécessairement facile, c'est toujours mieux d'aller dans un contexte où on s'appuie, on collabore avec nos collègues, que justement on fasse pas un caca nerveux quand notre patron nous n'accepte pas une recommandation qu'on croit être la meilleure, parce que quand même c'est la nature de notre travail, c'est ça, c'est toujours d'essayer d'être meilleur qu'on peut donner à notre gestionnaire, justement d'accepter de cette idée là que c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne chose, c'est peut-être pas le bon timing, comme tu dis.
Ouais, puis tu sais, parce que tantôt, on parlait de lire la personne qui est devant nous, mais là, ça amène l'autre étape qui est lire la personne, mais dans son environnement à elle. C'est donc se questionner, c'est quoi son environnement de cette personne-là, puis ça t'amène à comprendre beaucoup comment cette personne-là prend ses décisions, pourquoi elle réagit comme ça. T'sais. C'est sûr qu'encore une fois, on retourne dans notre tête, puis on est comme, mais voyons, rationnellement, c'est la meilleure décision, mais. Là, tu dis, OK, ouais, cette personne-là a des forces, des pressions sur elle, tu sais, qui font en sorte que, oups, c'est pas grave de prendre cette décision-là. Tu sais, puis des fois, c'est autant au travail que même à l'extérieur dans sa vie. Là, tu sais, fait que c'est d'être tu sais, empathique, là, c'est l'élément qui est le plus payant dans ces situations-là. Tu dis, regarde, il ne faut pas sûrement le faire.
Oui, en général, de toute façon, ce qu'on m'avait dit très tôt en carrière, c'est l'objectif, c'est que tu fasses briller ton patron.
Mm.
Et dès lors, pas de façon négative, parce que c'est lui qui va ramasser le crédit, mais c'est parce que si lui, ça va bien à son niveau, c'est sûr que ça va aller bien pour toi. Il y a comme une relation de donnant-donnant en général. Il y a toujours des cas d'exception qui aident justement cette situation-là. Puis ça revient un peu à résumer ce que tu mentionnes. Si tu l'aides dans son travail, c'est sûr qu'il va redescendre des affaires intéressantes vers toi et c'est ce qui est tout à fait normal, c'est au niveau de la relation humaine. On a fait un bon tour du sujet. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter avant qu'on ferme?
Non, ça va. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de cet aspect-là. Oui.
Très intéressant, très, très important d'ailleurs. Là, je pense qu'on l'a beaucoup répété, l'importance du contact avec autrui, justement de faire ça. Tu mentionnais dans les autres épisodes de la patinoire, mais il faut aller jouer sur la patinoire des autres. On ne peut pas jouer juste sur la nôtre. Parce que des fois, on est juste tout seul sur la nôtre, puis c'est pas utile. Il faut aller jouer avec l'équipe, aller avec les autres, puis de s'adapter à cette circonstance-là, même si à prime abord, c'est peut-être plus énergivore. Mais le rendement est là, puis il faut être capable de percevoir le rendement pour que la boucle se fasse bien.
Ouais, j'ajouterais peut-être, tu sais, il faut accepter d'être vulnérable, puis de se rendre vulnérable.
Aussi, notamment. Notamment. Excellent, et je te remercie beaucoup.
Merci. We're gonna